Les colloques du Collège de France.
Tout d'abord, je souhaiterais commencer par les traditionnels remerciements aux organisateurs Dominique Charpin et Antoine Jacquet pour m'avoir convié à parler dans ce marathon paléo-babylonien, bien que je ne sois absolument pas une coureuse de fond sur le domaine. Donc vous allez avoir l'approche d'une non-spécialiste du paléo-babylonien, avec un titre qui a été un petit peu modifié pour coller un peu plus au résumé que j'avais fourni. Donc, désolée pour ce changement de dernière minute. Au Proche-Orient ancien, l'animal est omniprésent. Il apparaît sur de nombreux supports, depuis les bas-reliefs monumentaux néo-assyriens jusqu'aux plus petits objets comme les sauts cylindres, les cachets, les pendeloques et amulettes. Mais la faune est également bien documentée par les tablettes cunéiformes, et ce depuis les époques les plus anciennes. Ainsi, il est possible de relever des mentions d'animaux dans des textes de nature diverse, listes lexicales, textes littéraires, textes divinatoires, médico-magiques, lettres ou encore textes économiques. Et pourtant, en dépit de cette richesse documentaire, il n'est pas si évident de reconstituer les connaissances et les conceptions du Proche-Orient ancien concernant le monde animal. Cette communication, qui aurait pu s'intituler « De l'intérêt d'utiliser Archibab quand on n'est pas spécialiste du corpus paléo-babylonien et qu'on étudie les animaux », mais c'était un petit peu trop long, présentera quelques-uns des apports de la documentation d'archives paléo-babylonienne à l'étude de la faune du Proche-Orient ancien. Nous verrons notamment comment cette documentation est susceptible d'éclairer d'autres corpus, en l'occurrence celui des textes thérapeutiques. Nous ferons dans un premier temps un tour d'horizon des sources textuelles disponibles pour l'étude de la faune mésopotamienne, puis nous aborderons le corpus thérapeutique et ses spécificités avant de donner un exemple parmi beaucoup d'autres possibles de l'utilisation du corpus d'archives paléo-babylonien pour enrichir la compréhension de ces textes savants. Les assyriologues qui s'intéressent aux connaissances zoologiques mésopotamiennes pourront, je pense, témoigner de la difficulté de la reconstitution et de l'exploitation de ces savoirs, car l'animal au Proche-Orient est à la fois partout et pourtant nulle part. Je m'explique. Tout d'abord, soulignons que la Mésopotamie n'a pas livré d'histoire naturelle, c'est-à-dire d'écrits dans lesquels l'animal, son apparence, son comportement ou encore son milieu naturel auraient été envisagés comme un objet d'étude à part entière. Par ailleurs, si certaines listes lexicales répertorient la faune et documentent des centaines, voire des milliers de noms d'animaux, une part importante de ces désignations fauniques n'est connue que par ces listes. Ceci pose un sérieux problème pour l'identification de ces animaux. La plus célèbre et la plus complète de ces listes s'intitule Urarubulu, et dans sa version standard du premier millénaire avant notre ère, elle comporte 24 tablettes, dont les 13e, 14e et 18e rassemblent animaux terrestres, domestiques, puis sauvages, enfin faune aquatique et aérienne. Cependant, des précurseurs de cette liste sont connus dès l'époque paléo-babylonienne, notamment à Nippur. Voici une tablette à l'écran. La multitude de ces entrées témoigne de l'intérêt pour le règne animal ainsi que de l'étendue du savoir zoologique mésopotamien qui semble avoir été constitué très tôt. De même, un examen attentif de la succession de ces entrées permet d'identifier une certaine logique taxinomique, mais c'est encore à peine entrouvrir la lourde porte des savoirs suméro-acadiens relatifs à la nature. Évidemment, pour la Mésopotamie, on ne saurait se priver de l'examen de la série divinatoire Shuma'alu, qui compile les signes fortuits se manifestant dans l'environnement de l'homme. Une partie importante des présages rassemblés par cette série, au moins 29 sur 120 tablettes, est formulée à partir de l'observation du comportement animal, donc espèce domestique et sauvage. Cependant, les informations éthologiques glanées par les savants l'ont été selon une optique particulière, celle d'interpréter les signes envoyés par les dieux aux hommes. Il s'agit donc d'une sélection de comportements dont certains peuvent être anormaux, inhabituels et bien souvent très circonstanciels. Ici encore, cette série divinatoire trouve des prototypes à l'époque paléo-babylonienne, en témoigne la tablette KD27, trouvée sur le site de Raradum. Le présage à l'écran, qui indique qu'une souris qui aurait volé la mèche d'une lampe à huile pour l'emporter dans son trou, illustre bien le caractère très circonstancié des comportements qui étaient rapportés. Vous en conviendrez donc, Shuma'alu et son précurseur, aussi précieuses que soient ces sources pour la reconstitution de l'environnement mésopotamien, ne peuvent que difficilement être considérées comme une étude éthologique stricto sensu. Toutefois, il est intéressant de souligner que ces observations du comportement animal sont déjà attestées à l'époque paléo-babylonienne. Ceci semble d'ailleurs confirmé par la lettre bien connue RM26-1-242, éditée par Jean-Marie Durand. Cette missive relate l'apparition d'une colonie de fourmis dans le palais de Marie. Cette invasion semble avoir été considérée comme un signe inquiétant qui a nécessité de plus amples investigations. Dès lors, une consultation oraculaire a été confiée au devin Askoudoum afin de s'assurer de la nature non ominuse de cette infestation. Et près d'un millénaire plus tard, les colonies de fourmis font toujours l'objet d'une attention particulière dans la 37e tablette de Shuma'alu. L'apport des textes littéraires à la connaissance des conceptions zoologiques semble quant à lui relativement minime. Ces sources nous renseignent davantage sur la perception culturelle des animaux. À l'image des proverbes qui peuvent décrire des animaux en action pour embrosser des caricatures, comme ce renard un peu prétentieux qui urine dans la mer et se vante que celle-ci tout entière est son œuvre. Les incantations contre les serpents et les scorpions révèlent, elles, en revanche, bien l'observation attentive de la faune. Ainsi, cette petite tablette paléo-babylonienne, dont la première édition a été réalisée par Nouguerol, dépeint avec un certain réalisme le comportement du scorpion. Ce sont les lignes 7 à 9 qui nous intéressent plus particulièrement. Donc, je cite une traduction qui est mienne. Il est vert dans les buissons, il surgit du sable, il a du venin, il est même dans le moule à briques. On a presque l'impression d'une charade. On reconnaît bien l'aptitude du scorpion à se fondre dans son environnement naturel, mais également le danger qu'il représente tapis dans l'habitat de l'homme. À noter que la lecture proposée aujourd'hui diffère légèrement de celle des précédents éditeurs, puisque nous proposons de lire chamour à la ligne 8 sur le verbe chamarou plutôt que charour. Et cette lecture semble étayée par les formules sumériennes qui décrivent un comportement analogue de l'arthropode à l'image de la ligne 15 du texte TMH 6.2 daté de l'époque d'Ur-3. Ajoutons, en faveur de cette interprétation, que le verbe « chamarou » est également employé pour décrire le comportement hostile du serpent, animal qui entretient une proximité certaine avec le scorpion en Mésopotamie. Enfin, un corpus privilégié, celui de la documentation d'archives, notamment les lettres et textes économiques. Celle d'époque paléo-babylonienne, de par sa richesse et son accessibilité grâce à Archibab, se révèle particulièrement précieuse. Elle permet de reconstituer l'environnement des habitants du Proche-Orient ancien. Ainsi, on y trouve des informations sur l'animal dans l'espace anthropisé, donc la cité et ses environs immédiats, principalement sur la faune domestique, donc comme le bétail appartenant aux institutions, par exemple, avec des informations sur les pratiques d'élevage. Mais on trouve également des données sur la faune sauvage quand celle-ci interfère avec les communautés humaines. Ainsi, on va avoir des événements relatifs aux attaques de troupeaux par des loups ou encore des lions qui rôdent aux alentours des villes qui sont documentés par les lettres, mais aussi par les textes de comptabilité qui peuvent recenser les pertes causées par ces prédateurs. Des éléments concernant les zoonoses et les épizooties, donc ce sont les maladies, les épidémies qui touchent plus spécifiquement les animaux, peuvent également être relevés. Tout comme l'observation des cycles naturels pour les pratiques cynégétiques, ainsi que des usages pratiques qui pouvaient être faits de produits dérivés des animaux et des éléments économiques les concernant. Enfin, cette documentation atteste de l'intérêt porté à l'animal à titre de curiosité, que ce soit avec la question des réserves zoologiques ou celle de l'animal offert en cadeau diplomatique. Sur ce dernier point, je vous renvoie évidemment à la contribution de Brigitte Lyon dans les actes de la RAI, dans la 38e RAI. Les assyriologues disposent donc d'un corpus textuel important, mais dans lequel l'animal demeure un élément un peu périphérique de la réflexion. Une part non négligeable de cette documentation se focalise plutôt sur les relations de l'homme avec le monde animal, plus qu'il ne prend l'animal pour objet d'étude en soi. De manière générale, dans les textes, les animaux les mieux documentés sont ceux qui ont soit un impact positif sur les communautés humaines, ça va être les animaux domestiqués dont on tire une valeur économique, les animaux d'élevage donc, qui permettent l'obtention de denrées alimentaires, ou encore ceux qui vont assister l'homme dans les tâches quotidiennes, donc chiens de chasse, animaux de labour et de bain. Soit au contraire, ceux qui ont un impact négatif sur la communauté humaine ou, son environnement. Donc il s'agira des prédateurs qui s'en prennent aux hommes ou au bétail, des animaux dont on redoute la piqûre ou la morsure, ou encore les nuisibles qui s'attaquent aux récoltes et aux réserves alimentaires. Il faut bien garder à l'esprit que dans les sources textuelles à disposition, exception faite peut-être de Shumaalu, une partie non négligeable de la faune est invisibilisée du fait justement qu'elle ne va pas impacter directement les communautés humaines. Pour résumer, si les Mésopotamiens n'ont pas compilé leurs connaissances zoologiques, il n'en reste pas moins qu'ils avaient attentivement observé la nature et en avaient tiré des conclusions qui n'ont pu qu'avoir des conséquences importantes sur les pratiques savantes. Ainsi, ne pas s'intéresser aux conceptions et connaissances zoologiques mésopotamiennes revient à se couper partiellement de la compréhension de certains corpus de textes, comme les textes thérapeutiques qui utilisent largement la pharmacopée animale. En Mésopotamie, comme dans nombre de médecines traditionnelles, l'utilisation de l'ingrédient trouvait plusieurs justifications. Physico-chimique, par exemple le miel qu'on va utiliser comme antiseptique, symbolique, ça va être l'utilisation d'un animal pour son image emblématique ou en raison d'un comportement caractéristique. Et donc sur ce dernier point, on a vraiment relation intime avec l'observation de la faune faite par les savants. Et le cas des traitements contre l'impuissance sexuelle, on a souvent recours à des animaux féconds, vigoureux, va bien illustrer ce mécanisme d'efficacité. On a aussi des utilisations pratiques, par exemple utiliser le cuir pour confectionner un sachet, utiliser la cire ou la graisse animale comme émollient, etc. Attention, une petite mise en garde cependant, ces différentes motivations ne sont pas mutuellement exclusives, mais peuvent être combinées. Et évidemment, cette catégorisation des mécanismes d'efficacité est tout à fait moderne et artificielle, et ces différents usages n'étaient pas distingués au Proche-Orient ancien. Si les textes thérapeutiques ont recours à une très riche pharmacopée, animale, végétale ou encore minérale, ils ont aussi la particularité d'être extrêmement laconiques. Ils se résument souvent à une présentation de symptômes, pouvant être suivis d'un diagnostic, puis d'un ou de plusieurs traitements. Ces procédures thérapeutiques consistent la majorité du temps en une liste d'ingrédients, s'y ajoutent dans le meilleur des cas quelques opérations de préparation et un mode d'administration. Mais hélas, on ne dispose d'aucun traité ou commentaire expliquant pourquoi tel ou tel ingrédient de la pharmacopée était employé, pas plus qu'on ne dispose d'informations sur la manière dont étaient obtenus ces ingrédients. Donc s'agit-il d'animaux abattus pour l'occasion? Le thérapeute pouvait-il s'approvisionner sur les étals du marché, etc. Par conséquent, la compréhension même de l'efficacité sur laquelle reposaient les traitements, mais aussi tout un pan qui va toucher aux questions pratiques d'approvisionnement en ingrédients pharmaceutiques, de préparation préalable au traitement, demeure inconnue à la seule lecture des textes thérapeutiques. Avant de passer à l'étude de cas, interrogeons-nous rapidement sur la pertinence d'exploiter le corpus paléo-babylonien pour éclairer la compréhension des textes thérapeutiques d'un millénaire postérieur. Le principal écueil est sans doute la distance temporelle qui sépare ces deux corpus. Le corpus paléo-babylien remontant à la première moitié du deuxième millénaire avant notre ère, a priori, on vous apprend rien, tandis que l'essentiel des textes thérapeutiques est daté du milieu du premier millénaire avant notre ère. Si on ne peut évidemment pas complètement écarter la possibilité que certains termes aient pu changer d'acception, que l'environnement se soit transformé ou encore que certains usages aient évolué, il serait cependant dommage de se priver d'une documentation aussi riche. D'autant que nous l'avons vu, ces pratiques savantes, bien que compilées et standardisées au premier millénaire, trouvent souvent leurs origines dans l'époque paléo-babylonienne, qui s'affirme comme majeure dans la constitution du savoir et de sa mise à l'écrit. En effet, comme souligné par Nils Hessel lors de ses cours, ici même au Collège de France, c'est à cette époque que les listes lexicales ont été combinées au système de la protase et de la podose, marquant ainsi la naissance du mode de consignation du savoir qui perdurera au premier millénaire. Enfin, signalons que des prescriptions thérapeutiques sont connues dès l'époque d'Ourtroi, et les sources médicales paléo-babyloniennes, bien qu'éparses et pour certaines encore inédites, existent cependant et nous permettent de supposer que les remèdes du premier millénaire s'inscrivaient dans une continuité d'usage. Certaines prescriptions récentes revendiquent d'ailleurs l'héritage direct de la période paléo-babylonienne, comme le texte BAM 159, qui documente une recette de pommade pour les yeux, peut-être qu'il faut supposer de l'époque de Hammurabi. Au vu de ces éléments, le recours au corpus paléo-babylonien ne paraît donc plus si anachronique et illégitime. Je souhaiterais désormais vous proposer une étude de cas en considérant l'exemple des animaux dits ririga. Dans les textes thérapeutiques, ce qualificatif ririga est souvent associé aux brebis, aux vaches et plus ponctuellement aux moutons. En l'état de notre corpus, les peaux et les tendons de ces animaux sont les seules parties utilisées par le thérapeute. Celles-ci sont employées pour un certain nombre d'indications cliniques, je les ai rassemblées à l'écran, mais le terme passe souvent inaperçu dans les traductions établies par les assyriologues spécialistes des textes médicaux. Pourtant, sa présence n'est certainement pas anodine. Plus encore, il est possible de supposer que cette précision participait, dans certains cas, de l'efficacité du traitement. Ainsi, ririga est souvent traduit par l'adjectif mort. Ces traductions suivent en réalité celles proposées par le dictionnaire de Chicago à la rubrique Mikitu, équivalent acadien du sumérien ririga. Cependant, on se doute que lorsqu'on utilise un tendon ou la peau d'un animal, celui-ci est a priori mort. Par ailleurs, pour tous les autres ingrédients qui nécessitaient d'abattre un animal, on ne voit pas cette précision apparaître. Cette traduction par mort, dans le cadre des textes thérapeutiques, et j'insiste sur le contexte car je ne me prononcerai pas pour les autres corpus, ne me semble donc pas satisfaisante. Une exploration du corpus paléo-babylonien grâce à Archibald permet de cerner un peu plus l'utilisation de ce terme. Une recherche rapide via l'onglet texte, puis mots, chaînes de caractères aboutit à 52 résultats, desquels il faut retrancher les occurrences de loup de lag ririga, donc seulement deux textes, qui désignent un métier et ne concernent donc pas notre étude. Ce premier corpus peut significativement être augmenté grâce à d'autres textes paléo-babyloniens, comme ceux de Toutoul, dans lesquels il est possible de relever de nombreuses mentions de bovins et ririga. Donc ces animaux ririga sont donc bien documentés à l'époque paléo-babylonienne. Dans les contes de bétail, ils sont recensés au titre de perte pour le troupeau. Ce sont les bêtes perdues, car mortes avant leur abattage par le boucher, laissant supposer que leur mort était imprévue, mais aussi peut-être que leur viande ne pouvait être consommée. Les animaux ririga sont donc a priori morts de cause naturelle, on dirait aujourd'hui. Soit de vieillesse, cela apparaît dans les textes de Toutoul, où le qualificatif soumoun, vieux, peut être précisé, mais également morte de faim, comme le documente la lettre ABB 1127, dont l'édition est disponible sur Archibab et Le passage qui nous intéresse sont les lignes 24 et 28, dont voici la traduction. 140 bovins se tiennent ici, 49 bovins sont morts de cause naturelle, Ririga. Depuis hier, je n'ai pas d'orge et de paille, ils meurent de faim. Concernant les bêtes mortes de maladie, sans doute faudra-t-il creuser la question. J'émets cependant quelques réserves compte tenu des risques sanitaires encourus. Mais vraiment, l'enquête est à poursuivre. Vous avez recensé ici les différents animaux qui peuvent être qualifiés Ririga dans les textes rassemblés par Archibab. Dans l'immense majorité des cas, il s'agit d'animaux d'élevage, bovins, ovins ou caprins. Et cette observation doit, me semble-t-il, être soulignée. En effet, les animaux domestiqués étant particulièrement surveillés, ils sont probablement les seuls pour lesquels il était possible de dater la mort et d'en connaître les circonstances précises. Ceci paraît d'autant plus important que plusieurs de ces tablettes paléo-babyloniennes stipulent que ces bêtes Ririga étaient amenées chez l'équarisseur, tandis que de nombreux autres documentent l'apport de leur peau et de leur toison au temple. Par conséquent, les animaux Ririga, bien que possiblement considérés comme impropres à la consommation, ne constituaient pas des pertes sèches, puisque quelques produits secondaires pouvaient en être tirés et étaient très probablement revendus, certains produits pouvant vraisemblablement arriver entre les mains de notre thérapeute. Certains spécialistes du paléo-babylonien, comme Marine Béranger dans Archibab 4, traduisent ce terme par « tomber », rendant ainsi compte de la racine « makatoum » sur lequel l'adjectif est construit. Bien que n'étant pas idéal, cette solution au plus proche de l'acadien paraît cependant bien plus satisfaisante qu'une traduction par « mort », mais sans doute faudrait-il une périphrase pour rendre la réalité précise derrière ce terme. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos vaches et brebis Ririga, dans les prescriptions et rituels du premier millénaire. La prescription des lignes 47'-48' de la première colonne de la tablette BAM 237, qui traite des hémorragies anormales chez la femme, est un exemple particulièrement intéressant. Elle documente une amulette confectionnée à partir de tendons de vache et de brebis, toutes deux qualifiées de Ririga. Ces tendons noués, 14 fois, recevaient coquillages, pierres et plantes avant d'être attachés à la taille de la patiente, au plus près de la partie du corps défaillante. Il me semble que l'utilisation spécifique de tendons provenant d'animaux n'ayant pas été saignés est significative et pertinente dans le soin des hémorragies. D'autant que dans ce contexte spécifique, donc les hémorragies qui vont toucher la femme, les prescriptions mettent souvent en œuvre à la fois des ingrédients hémostatiques, mais aussi potentiellement des ingrédients de nature symbolique, de couleur rouge, donc ça peut être des minéraux ou encore de la laine. De la laine teinte, évidemment. Les tendons des animaux Ririga pourraient donc ici peut-être représenter les vaisseaux sanguins que l'on souhaitait voir rester intacts, fermés. Une compréhension qui pourrait d'ailleurs être étayée par le sémantisme large du sumérogramme Sa, qui semble pouvoir désigner à la fois les tendons, mais également les vaisseaux sanguins. En guise de très brève conclusion, je dirais que cette communication n'avait pas pour d'autres prétentions que celle de partager mon expérience personnelle, à savoir l'utilisation profitable du corpus d'archives paléo-babylonien par une non-spécialiste. Les études de cas auraient facilement pu être multipliées tant ce corpus est susceptible d'enrichir différents aspects des textes thérapeutiques. J'ai laissé aujourd'hui de côté le problème de l'identification des ingrédients qui se seraient pourtant bien prêtés à l'exercice. Reste que l'utilité de ce corpus va bien au-delà de la seule question de la pharmacopée. J'espère modestement avoir incité quelques spécialistes des textes savants du premier millénaire à oser faire plus régulièrement ce saut dans le temps avec, pour parachute, Archibab. Je vous remercie pour votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.